Vous écoutez, on lit pour vous.
L'opposition de Trump à l'éolien pourrait profiter à la Nouvelle-Écosse. Un texte de la presse canadienne paru le 25 juin 2025 sur Ici Nouvelle-Écosse. L'opposition du président américain Donald Trump aux énergies renouvelables pourrait créer une occasion en or pour le secteur florissant de l'énergie éolienne en mer, en Nouvelle-Écosse, selon un cabinet de conseil international de premier plan. Azure Insights, une entreprise située au Danemark, a récemment présenté un webinaire examinant le plan décennal du premier ministre néo-écossais Tim Houston visant à obtenir des licences pour suffisamment d'éoliennes en mer afin de produire 40 gigawatts d'électricité. Bien que la province n'ait besoin que de 2,4 gigawatts, le plan Wind West de M. Houston prévoit la vente d'électricité excédentaire au reste du Canada et, potentiellement, aux États-Unis. Les experts estiment qu'un tel projet nécessiterait la construction d'environ 4000 éoliennes en mer qui produiraient autant d'électricité que les éoliennes en mer chinoises l'an dernier. Scott Urquhart, cofondateur et président directeur général d'Azure Insights, a déclaré que Wind West avait attiré l'attention de l'industrie mondiale de l'éolien en mer. L'objectif est de faire connaître la Nouvelle-Écosse aux grands investisseurs internationaux, a-t-il indiqué mardi lors d'une entrevue à Copenhague. Si les grands acteurs ne voient qu'une ambition d'un gigawatt, ils ne se présenteront pas, dit-il. Lors du webinaire de la semaine dernière, qui a attiré une centaine de développeurs de projets, d'investisseurs et de représentants gouvernementaux, M. Urquhart a décrit Wind West comme un projet grand et ambitieux, tout en précisant qu'il s'appuie sur des fondamentaux de marché et une économie rationnelle. Fondée en 2020, Azure Insights se présente comme un fournisseur de renseignements proposant des analyses et des modèles aux investisseurs dans le secteur de l'éolien en mer. Sa base de données de projets couvre 60 marchés. Bien qu'il soit situé à Copenhague, M. Urquhart s'intéresse vivement à Wind West, ayant grandi au Cap-Breton. Il a expliqué lors du webinaire que le secteur de l'éolien en mer a été pénalisé par la hausse des coûts et les problèmes de chaîne d'approvisionnement ces dernières années, mais qu'il semble prêt à se redresser grâce à la baisse des taux d'intérêt et à l'intensification de la concurrence dans la chaîne d'approvisionnement. Signe Sorensen, responsable régional d'Azure pour les Amériques, a indiqué que ces tendances encourageantes ont été éclipsées aux États-Unis par la décision du président Donald Trump de suspendre les projets en mer déjà autorisés. Alors même que le secteur mondial semble sur la voie de la reprise, les États-Unis sont sur une voie complètement différente, a dit Mme Sorensen lors du webinaire. Et cela est très important pour le Canada. Les difficultés d'un État peuvent être une opportunité pour un autre. En janvier, M. Trump a annoncé qu'il suspendrait les baux pour les projets éoliens tout en accélérant les plans d'augmentation de la production pétrolière et gazière. Cette décision a entraîné des licenciements et un blocage de la construction d'éoliennes qui représente 10 % de la production d'électricité américaine, la plus grande source d'énergie renouvelable. La plus grande arnaque de l'histoire, selon Trump. Plus tôt ce mois-ci, M. Trump a réitéré son opposition à l'énergie éolienne. Les éoliennes sont en train de tuer notre pays, a-t-il soutenu le 12 juin. Les champs en sont jonchés. Des déchets. C'est la plus grande arnaque de l'histoire. L'énergie la plus chère qu'on puisse acheter. Mme Sorensen a indiqué que les États de la Nouvelle-Angleterre et de New York étaient à la pointe du développement du secteur éolien en mer aux États-Unis, mais que l'opposition de M. Trump pourrait paraliser le secteur pendant les 4 prochaines années. Ils doivent trouver des sources renouvelables pour fournir cette énergie. Et c'est là que l'éolien canadien à grande échelle pourrait entrer en jeu, en particulier Wind West. C'est une occasion en or pour le Canada, dit-elle. Scott Urquhart a acquiescé. Aux États-Unis, le secteur éolien en mer vient de se vider de sa substance et de nombreux acteurs de la chaîne d'approvisionnement et développeurs se contentent de dire « Oh non !» a-t-il déclaré en entrevue. C'est le moment de présenter vos idées visionnaires. Si vous attendez, vous raterez une occasion en or, a ajouté M. Urquhart. Lors de sa présentation en ligne, M. Urquhart a montré une carte de points chauds à code de couleur mettant en évidence les zones au large de la Nouvelle-Écosse où le développement de l'éolien en mer serait réalisable. De vastes zones pourraient produire des dizaines de gigawatts d'énergie éolienne en mer, a-t-il dit, en désignant les bancs tentaculaires et peu profonds autour de l'île de Sable et une longue étendue plus près de la côte sud de la Nouvelle-Écosse. Signe Sorensen a également présenté des graphiques montrant que les États de la Nouvelle-Angleterre et de New York sont prêts à payer le prix fort pour l'énergie éolienne en mer. La Nouvelle-Écosse pourrait être compétitive en termes de prix, a-t-elle précisé. C'était l'opposition de Trump à l'éolien pourrait profiter à la Nouvelle-Écosse. Un texte de la presse canadienne paru le 25 juin 2025 sur Ici Nouvelle-Écosse.
Les problèmes s'accumulent à l'insectarium. Un texte de Philippe Teixeira-Lessard paru le 8 juin 2025 dans la presse. En plus de surchauffer par temps chaud, le tout nouvel insectarium de Montréal connaît un important problème de condensation par temps froid, pouvant mettre à risque ses collections d'insectes, a appris la presse. La ville poursuit maintenant les concepteurs pour près de 4 millions à cause des nombreuses erreurs et omissions dans leurs plans. Le bâtiment entièrement vitré, qui prend la forme d'une serre, accumule les prix d'architecture et les certifications environnementales depuis son inauguration, en 2022, après un concours international d'architecture. Il n'est toutefois pas adapté au climat montréalais, selon la ville, qui a déboursé plus de 40 millions jusqu'à maintenant. Les inspecteurs du travail sont débarqués à l'insectarium en janvier 2025, après qu'un employé eut chuté dans une flaque d'eau sur le sol et porté plainte. Je constate que la salle est très humide et qu'un vice de conception produit de la condensation par temps froid, moins 10 degrés, et retombe sous forme d'eau dans les voies de passage, indique le rapport de la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, CNESST, obtenu par la presse. Ces endroits sont plus glissants. Cette humidité est aussi trop élevée pour la conservation de la collection d'insectes naturalisés. La presse avait révélé en 2023 que l'insectarium connaissait aussi d'importants problèmes de surchauffe lorsque le soleil estival plombait sur les parois de verre. Des thermopompes temporaires avaient même été installées en urgence pour pallier la situation pendant les trois derniers étés. « Ce n'est pas tolérable », avait déploré à l'époque Jean-Pierre Lauzon, président du syndicat des Cols Bleus de Montréal, qui compte plusieurs membres travaillant dans ce bâtiment. « Quand il fait trop chaud, tu te déshydrates. On ne pouvait plus travailler à l'intérieur. Les employés se plaignaient de la chaleur. » Multiples défauts. Ces problèmes sont aussi soulignés dans une nouvelle poursuite de Montréal contre les concepteurs de l'édifice. La ville leur réclame 3,8 millions pour couvrir les préjudices importants de leurs gaffes alléguées. De nombreuses erreurs et omissions ont été découvertes dans les plans et devis conçus par les firmes, engendrant de nombreux coûts additionnels imprévus, plaide la ville dans sa poursuite. Les firmes auraient aussi commis de multiples défauts dans la réalisation de leur mandat d'assistance technique. Quelque 3,5 millions ont notamment été nécessaires pour l'ajout de la climatisation permanente dans l'édifice, une facture que la ville souhaite refiler à ses architectes et ingénieurs. L'inauguration de l'insectarium a eu lieu avec 3 ans de retard sur l'échéancier initial. Le projet est passé d'un budget de 23 millions en 2015, à près de 29 millions en 2017, puis à 36 millions en 2019, puis encore à 38 millions lors de son inauguration l'an dernier. Avec les travaux correctifs, le montant dépasse maintenant les 40 millions. Des rondes toutes les 30 minutes. Les firmes poursuivies par Montréal sont les bureaux d'architectes Quinn Malvasi de Berlin, Pelletier de Fontenay et Jaudoin, Lamar Pratt Architect Inc., ainsi que les firmes de génie NCK Inc. et Duprat-Ledoux Inc. Cette dernière s'est rendue responsable d'un manque de suivi flagrant, précise la ville. La sécurité des employés et du public est évidemment une priorité pour nous, a réagi Yves de Fontenay au nom des 3 firmes d'architectes. Concernant la poursuite, étant donné que des procédures légales sont déjà en cours et qu'elles sont suivies par nos assureurs, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de commenter ce dossier. NCK Inc. et Duprat-Ledoux Inc. n'ont pas non plus voulu commenter l'affaire. Espace pour la vie, l'organisation qui regroupe les musées scientifiques de la ville de Montréal, n'a pas commenté davantage le dépôt de sa poursuite. Elle a toutefois expliqué avoir pris des mesures d'atténuation technique dès qu'elle a découvert le problème de condensation. Après la chute d'un travailleur au début de 2025, elle a instauré des rondes toutes les 30 minutes lorsque la température extérieure descend en dessous de moins 15 degrés Celsius pour éponger les flaques d'eau. Elle a toutefois précisé que la cause exacte de cette accumulation d'eau qui a causé la chute n'a pas été établie. Aucun autre incident n'avait été déclaré préalablement à la ville et aucun autre n'a été déclaré depuis, a ajouté l'organisation. Espace pour la vie demeure vigilante et veille à ce que les mesures en place soient appliquées afin que ce lieu soit sécuritaire. C'était « Les problèmes s'accumulent à l'insectarium », un texte de Philippe Teixeira-Lessard, paru le 8 juin 2025 dans la presse.
Simon Boulris revient de Cannes et retourne dans sa cuisine. Une entrevue réalisée par Samuel La Rochelle parue le 19 juin 2025 dans le magazine Fugue. Gros printemps pour Simon Boulris. Quelques semaines après son élimination à Big Brother Célébrité, l'auteur a publié « Ma vie au micro-ondes, récit d'infortune culinaire » et foulé le tapis rose de Canary avec son nouveau projet télé, une série policière queer. Tu reviens tout juste de Canary. Quel est cet événement? C'est la petite sœur du grand festival de cinéma. Ça se passe aussi sur la croisette avec une montée des marches. Le tapis n'est pas rouge, mais rose. ça réunit le meilleur de la télévision à travers le monde. On était les seuls Québécois cette année. J'ai su que j'y allais après avoir été éliminé de Big Brother. Pendant 4 jours, chaque personne éliminée doit rester à l'hôtel, sans pouvoir parler à personne, sauf à son agent et aux joueurs déjà sortis. Quelle est la prémisse de ta nouvelle série « M'infiltrer dans ta vie » C'est un mélange de séries policières et de séries queer. Ça part d'un truc que j'ai vécu en 5e secondaire. J'étais dans mon cours d'anglais, un nouvel élève s'est assis à côté de moi, j'ai tenté de m'en faire un ami, mais le cours d'après, il s'est installé au fond de la classe. J'ai bien compris qu'il ne voulait pas être mon ami. Un mois plus tard, il a arrêté de venir à l'école. J'ai demandé à ma prof pourquoi et elle m'a dit que c'était un policier infiltré pour voir qui vendait de la drogue à l'école. Cette scène-là, on la retrouve au début. Dans la série, le jeune queer de 16 ans s'infiltre dans la vie du policier, le suit en filature après l'école et finit par comprendre que c'est un policier de 26 ans. C'est une histoire d'amitié improbable. Tu as connu du succès avec 6 degrés et géolocalisé l'amour. Tu as été encensé pour Chouchou. Est-ce que ça met de la pression ou ça donne confiance pour les projets suivants? M'infiltrer dans tes vies est le premier projet qui se concrétise depuis Chouchou, outre Martine à la plage, diffusé presque au même moment. Aucun des autres projets menés avec beaucoup de ferveur n'a fonctionné. Je n'étais donc pas en train de me demander si ma prochaine série serait aussi bonne et appréciée que Chouchou, mais plutôt, est-ce que je vais faire une autre série dans ma vie? C'est compliqué écrire pour la télé? Pour des raisons qui nous échappent, on tire souvent la plug sur des projets. J'avais 2-3 projets qui m'emballaient énormément, mais qui n'existeront jamais. C'est dur pour l'ego, pour le cœur et pour la ferveur. Au Québec, je n'ai pas l'impression qu'un grand succès est garant d'une prochaine série diffusée. Je ressens une désillusion face à la télé. On écrit, et quand ça ne s'incarne pas, il y a quelque chose de désespérant pour le romancier que je suis. Quand j'écris un roman, la finalité existe. As-tu pensé quitter la scénarisation? Quand j'ai su que m'infiltrer dans ta vie allait se faire, je venais de décider que j'arrêtais la scénarisation en février 2024. Je me disais que c'était une parenthèse intéressante, amusante et payante, mais bizarre. Je pense encore que je ne suis pas fait pour la scénarisation. Une semaine après, 2 projets se sont enclenchés, m'infiltrer dans ta vie et une autre qu'on tourne en septembre. Tu m'as expliqué récemment que ta productivité avait ralenti. Comment expliques-tu cela? Big Brother a considérablement ralenti mon rythme. J'ai été trop habité par le jeu pour écrire sur autre chose. Pendant 1 mois et demi, j'ai mis sur pause ma créativité. Depuis que je suis sorti, j'ai de la difficulté à retrouver mon élan. Ça ne m'angoisse pas. J'avais peut-être un rythme un peu trop effervescent. J'ai envie d'y aller plus lentement. C'est soit de la fatigue, de la sagesse ou autre chose. Mon amoureux trouve ça assez sain. Parlons maintenant de ton livre « Ma vie au micro-ondes ». Comment t'es venue l'idée d'utiliser ta relation à la cuisine pour explorer plusieurs aspects de ta personne? La cuisine est un lieu de référence et l'endroit où il y a plus de vie dans une maison. C'est un espace formidable pour parler de notre rapport à la vie, aux autres et à la solitude. Longtemps, j'ai habité seul et je faisais moins d'efforts pour m'alimenter. Vivre à deux, ça veut aussi dire, avec mon amoureux qui cuisine, épaissir par amour parce que je me sens aimé par lui et je mange les repas qu'il concocte. C'est également une quête de soi. À 43 ans, est-ce possible de me sortir de mon absence d'autonomie dans la vie domestique? À quel point ton chum a-t-il changé ta vie culinaire? D'abord, quand il est arrivé chez moi, on a rénové mon appartement complètement, y compris la cuisine. Il fait tout en cuisine et je mange des restants quand il est parti. Le livre est entre autres un hommage à mon chum et à sa générosité à mon endroit. Et bien sûr, c'est un hommage à Jeanne Benoît que je fais débarquer dans ma cuisine pour me motiver comme une cheerleader. Je jalouse le génie de femmes comme elle et ma grand-mère, l'aisance avec laquelle elles allument un rond-poêle et cuisinent des plats. Tu t'amuses à faire des liens avec Joanne Benoît. Comment la décrirais-tu pour les néophytes? Elle a démocratisé la cuisine simple. Son parcours ressemble à celui de Julia Child, la grande papesse de la cuisine aux États-Unis. Au Canada, c'est Joanne Benoît. Elle a travaillé partout au pays. Elle s'adressait à tout le monde et elle donnait des conseils pour tous les budgets. Elle a parti une école de cuisine, écrit un livre de cuisine pour les enfants et démocratisé l'utilisation du micro-ondes, qui faisait peur aux gens en 1975. 50 ans plus tard, je trouvais ça le fun de proposer ma version. C'était « Simon Boulris revient de Cannes et retourne dans sa cuisine », une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 19 juin 2025 dans le magazine Fugue.
Emma et Noah au sommet, palmarès des prénoms 2024, un texte de Louise Leduc, paru le 19 juin 2025 dans la presse. Le conte nous est transmis par Retraite Québec, qui administre l'allocation familiale et le régime des rentes du Québec, RRQ. Chez les garçons, Noah arrive au premier rang pour la 4e année consécutive. William, de son côté, figure dans ce palmarès des 10 prénoms les plus donnés depuis l'an 2000, indique le communiqué. Chez les filles, Emma est le prénom qui remporte la palme encore une fois, après avoir ponctuellement cédé sa place à Alice en 2023. C'est la 7e fois, au cours des 10 dernières années, qu'Emma est le prénom féminin le plus populaire. À quel point les prénoms en haut de liste sont-ils répandus? À titre d'exemple, on retrouve 462 nouvelles petites Emma en 2024. Et pas moins de 576 Noah se sont ajoutés. Cette année encore, parmi les 50 prénoms féminins les plus donnés, beaucoup se terminent par la voyelle A. Outre Emma et Olivia, les Clara, Sophia, Livia, Léa, Mila, Mia, Victoria, Julia et Elena ont particulièrement la cote. Inspirés du passé, quelques prénoms anciens, aussi bien chez les filles que chez les garçons, continuent d'être en vogue. Ainsi, dans le palmarès des 50 prénoms les plus fréquents chez les filles, Zoé, Béatrice, Rose et Jeanne côtoient des prénoms plus modernes comme Billy et Charlie. Les parents optent encore davantage pour les prénoms anciens quand ils ont un garçon, qu'on pense à Arthur, Édouard, Jules, Victor, Henri, Hubert et Léon, aussi dans le top 50. Certains prénoms qui ont eu leur heure de gloire se font plus rares, comme Mégane, très populaire au début des années 2000, qui ne figure pas parmi les 50 premiers cette fois. Océane, très prisée vers 2005, est aussi oubliée, tout comme Ariane et Kevin. Influence française. Un petit coup d'œil aux prénoms donnés en France est souvent un indicateur des tendances à venir ici. La dernière liste disponible, celle de 2023, permet de constater que certains des prénoms les plus populaires là-bas le seront ici aussi, avec quelques particularités. En France, pour les deux sexes confondus, Gabriel arrive au premier rang, au 30e au Québec, suivi de Léo, Raphaël, Maël, Louis, Louise, Ambre, Noah, Alba, et Jules. Notons que la liste ne contient pas de prénoms qui font sursauter Retraite Québec n'ayant rendu public que ceux qui sont donnés à au moins 5 enfants. On ne sait donc pas s'il y a un Goldorak cette année. D'ailleurs, si le prénom donné à un enfant risque d'être ridiculisé ou de lui nuire, le directeur de l'état civil peut inciter des parents à en choisir un autre. En cas de refus, un juge peut être appelé à décider si le prénom peut être donné ou pas, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ces dernières années, les parents optent souvent pour un prénom qui se veut international et qui se dit notamment aussi bien en français qu'en anglais, relève Laurence Charton, sociologue et professeur à l'Institut national de la recherche scientifique, qui s'est penché ces dernières années sur la transmission des prénoms et du nom de famille. Un souci qui n'est pas surprenant, note Madame Charton, dans la mesure où, de nos jours, au Québec, 40% des nouveaux-nés ont au moins un de leurs parents qui vient d'un autre pays. Chez les retraités. De façon amusante, Retraite Québec a aussi fait un petit palmarès des prénoms les plus fréquents parmi ceux qui ont touché leur rente du RRQ pour la première fois en 2024. Et c'est là qu'on se rend compte que les William et Emma qui reviennent d'année en année, sont quand même attribués à un moins grand nombre d'enfants que c'était le cas pour les prénoms populaires des années 1960 et 1970. Ainsi, pas moins de 3753 Sylvie ont touché leur rang en 2024. 1863 Joanne et 1512 Linda. Chez les hommes, c'est le Festival des Michel, 2515, des Daniel, 2410, et des Alain, 2018. Prénoms les plus populaires chez les nouveaux-nés au Québec en 2024, top 10 chez les filles, Emma, Olivia, Florence, Charlotte, Alice, Charlie, Béatrice, Clara, Sophia, Livia. Top 10 chez les garçons, Noah, Léo, Liam, William, Thomas, Louis, Arthur, Édouard, Émile, Théo. C'était Emma et Noah au sommet, palmarès des prénoms 2024, un texte de Louise Leduc, paru le 19 juin 2025 dans la presse.